Chapitre 1. Conditions nécessaires à la constitution de la science sociale. Une discipline ne mérite le nom de science que si elle a un objet déterminé à explorer. La science, en effet, s'occupe de choses, de réalités. Si elle n'a pas à donner, à décrire, à interpréter, elle repose sur le vide. Il n'est rien qu'elle puisse se proposer en dehors de cette description et de cette interprétation du réel. C'est sous cet angle que l'arithmétique considère les nombres, la géométrie, l'espace et les figures, les sciences de la nature, les corps animés et inanimés, la psychologie, enfin, l'esprit humain. Aussi, pour qu'une science sociale puisse être constituée, était-il nécessaire avant toute chose de lui assigner un objet déterminé? Au premier abord, rien de plus facile que de résoudre cette difficulté. La science sociale n'a-t-elle pas pour objet les choses sociales? C'est-à-dire les lois, les mœurs, les religions, etc. Mais si l'on regarde l'histoire, il est clair que parmi les philosophes, aucun, jusqu'à une époque toute récente, ne les a conçus ainsi. Ils pensaient en effet que tout cela dépend de la volonté humaine, si bien qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était de véritables choses, tout comme les autres choses de la nature qui ont leur caractère propre et, par suite, exigent des sciences capables de les décrire et de les expliquer. Il leur paraissait suffisant de rechercher ce que, dans les sociétés constituées, la volonté humaine doit se proposer comme but ou ce qu'elle doit fuir. Aussi recherchaient-ils non ce que sont les institutions et les faits sociaux, leur nature et leur origine, mais ce qu'ils devraient être. Ils se souciaient non de nous fournir une image de la nature aussi vraie que possible, mais de proposer à notre admiration et à notre imitation l'idée d'une société parfaite. Aristote lui-même, bien qu'il ait prêté attention à l'expérience beaucoup plus que Platon, s'est proposé de découvrir non les lois de la vie en commun, mais la meilleure forme de société. Au point de départ, il pose que les sociétés ne doivent avoir d'autre but que de rendre leurs membres heureux par la pratique de la vertu, et que celle-ci consiste dans la contemplation. Il n'établit pas ce principe comme une loi que les sociétés observent en réalité, mais comme une loi qu'elles devraient suivre pour que les hommes puissent accomplir leur nature propre. Par suite, il est vrai, ils se retournent vers les faits historiques, mais ce n'est guère que pour porter sur eux un jugement et pour montrer comment ces propres principes peuvent s'adapter à des contingences diverses. Les autres écrivains politiques qui lui ont succédé ont plus ou moins suivi son exemple. Qu'ils négligent complètement la réalité ou qu'ils examinent plus ou moins attentivement, tous n'ont qu'un but. Non pas de connaître cette réalité, mais de la corriger, ou même de la transformer de fond en comble. Le présent et le passé ne les retiennent pour ainsi dire pas. Ils regardent vers l'avenir. Or, toute discipline qui regarde vers l'avenir manque d'un objet bien déterminé et doit par suite recevoir le nom non pas de science, mais d'art. Je reconnais que cet art a toujours impliqué une certaine science. Jamais personne n'a affirmé qu'une forme d'État devait être préférée aux autres sans essayer d'appuyer ses préférences par des arguments démonstratifs. Et nécessairement, ces arguments reposent sur quelques réalités. Si par exemple on croit que la démocratie vaut mieux que l'aristocratie, on montre qu'elle s'accorde mieux avec la nature humaine ou bien l'on fait voir par l'histoire que les peuples qui jouissaient de la liberté ont surpassé les autres, etc. Quoi que nous tentions lorsque nous agissons avec méthode, soit pour explorer la nature, soit pour formuler des règles de vie, il faut en revenir aux choses, c'est-à-dire à la science. Mais en premier lieu, les écrivains ayant l'habitude de déduire leurs opinions sur ces questions de la condition humaine plutôt que de l'état des sociétés, cette science, si toutefois il est permis d'employer ce mot, ne contient le plus souvent rien qui soit véritablement social. Et en effet, quand on a démontré que les hommes sont nés pour la liberté, ou au contraire qu'ils ont besoin avant tout de sécurité, et que l'on conclut de là de quelle façon l'État doit être constitué, où est en pareil cas la science sociale? Tout ce qui en de telles discussions ressemble à la science relève de la psychologie, tandis que tout ce qui a trait à la société est de l'art. Si par hasard quelque chose y appartient à la propre description ou interprétation des choses sociales, ce n'en est qu'une minime partie, et reléguée au second plan. Telle est la théorie d'Aristote sur les causes qui modifient ou bouleversent les constitutions politiques. D'autre part, la science, lorsqu'elle se mêle à l'art, ne peut conserver sans altération sa nature propre. Elle dégénère en on ne sait quoi d'équivoque. L'art, en effet, consiste à agir, il est donc pressé par l'urgence. Il entraîne et pousse avec lui la science qu'il contient. La vraie science ne souffre pas tant de précipitation. En effet, chaque fois que l'on regarde ce qu'il faut faire, Ce qui est le rôle propre de l'art, on n'a pas le loisir de temporiser son limite, on doit répondre le plus vite possible parce qu'il faut vivre. Si l'État est malade, il est impossible de demeurer dans le doute et l'hésitation jusqu'à ce que la science sociale ait décrit la nature du mal et découvert ses causes. Il faut agir sans retard. Toutefois, possédant une intelligence et la faculté de délibérer, nous ne prenons pas nos décisions au hasard. Il est nécessaire que nous comprenions, ou plutôt croyons comprendre, les raisons de nos desseins. C'est pourquoi nous recueillons, comparons et interprétons hâtivement les faits qui nous tombent sous le sens. En un mot, nous constituons, tout en marchant, une science improvisée grâce à laquelle notre opinion semble avoir un fondement. Voilà la science, combien altérée on le voit, qui se rencontre au sein de l'art lui-même. Ayant procédé sans méthode, elle ne peut nous offrir que des probabilités douteuses qui n'ont pour nous que l'autorité que nous voulons bien leur prêter. Si nous les suivons, ce n'est pas que les arguments sur lesquels elles semblent s'appuyer ne laissent place à aucune incertitude, c'est qu'elles répondent à nos sentiments intimes. Elles ne nous inspirent que ce à quoi nous portent nos tendances spontanées. Au reste, en ces matières où notre intérêt est en cause, tout excite nos sentiments avec vivacité. Quand quelque chose est d'une telle importance pour notre vie, nous ne sommes pas capables de l'examiner avec soin et d'un esprit calme. Il y a des choses que nous aimons, d'autres que nous haïssons, d'autres que nous souhaitons, et nous apportons avec nous nos haines, nos amours, nos désirs qui viennent troubler notre réflexion. Ajoutez encore qu'il n'existe aucune règle bien déterminée permettant de discerner ce qui par soi est utile et ce qui ne l'est pas. Car une seule et même chose étant le plus souvent utile par certains côtés, préjudiciable de l'autre, et le préjudice ne pouvant être comparé mathématiquement avec l'utilité, chacun suit sa nature propre et selon son naturel, considère tel ou tel côté de la chose et néglige l'autre. Il y a, par exemple, des gens qui sont tellement épris de la concorde des citoyens qu'ils ne voient rien de plus utile que l'unité aussi complète que possible de l'État et qui n'ont aucun regret pour la liberté si cette cohésion excessive la supprime. Il en est d'autres, au contraire, qui placent la liberté avant tout. C'est pourquoi tout cet assemblage d'arguments sur lesquels s'appuient les diverses opinions n'exprime pas les choses, les réalités, ni le véritable ordre des choses, mais seulement des états d'âme, ce qui est à l'opposé de la science véritable. La science diffère donc de l'art au point qu'elle ne peut rester fidèle à sa propre nature qu'en demeurant entièrement indépendante, c'est-à-dire à condition de s'appliquer à un certain objet en vue de le connaître sans aucune préoccupation d'utilité. C'est à cette condition en effet que, sans être poussée par aucune nécessité vitale, loin des débats publics ou privés, on peut avoir le loisir de vaquer à l'étude dans la paix et le silence du cabinet, sans que rien nous pousse à avancer nos conclusions au-delà de ce qu'autorisent nos arguments. Sans doute, même sur les questions abstraites, nos pensées ont leur origine dans le cœur, car le cœur est la source d'où vient toute notre vie. Mais si nous ne voulons pas nous abandonner témérairement à l'esclavage des sentiments, il faut qu'ils soient gouvernés par la raison et par suite que nous placions celle-ci au-dessus des contingences et des accidents de la vie. Autrement, étant inférieure en force aux désirs de toutes sortes qui nous agitent, elle se tournerait inévitablement du côté où il la pousserait. N'allons pas croire que la science soit pour cela inutile à la direction de la vie humaine. Bien au contraire, elle prête à l'art une aide d'autant plus efficace qu'elle en est mieux séparée. Qu'y a-t-il de plus souhaitable pour nous que d'être sain d'esprit et de corps ? Seule, pourtant, la science peut déterminer en quoi consiste la bonne santé mentale et corporelle. La science sociale, répartissant les diverses sociétés humaines en types et en espèces, ne peut faire autrement que de décrire ce qu'est la forme normale de la vie sociale dans chaque espèce, pour la simple raison qu'elle décrit l'espèce elle-même. Car tout ce qui appartient à l'espèce est normal et tout ce qui est normal est sain. En outre, comme une autre partie de la science traite des maladies et de leurs causes, nous sommes ainsi informés non seulement de ce qui est souhaitable, mais aussi de ce qu'il faut fuir et des moyens par lesquels les dangers peuvent être écartés. Aussi importe-t-il à l'art lui-même que la science se sépare et, pour ainsi dire, s'émancipe de lui. Mais il y a plus. Chaque science doit avoir son objet propre et particulier, car si cet objet lui était commun avec les autres sciences, elle se confondrait elle-même avec elle.